Bien. On a donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Hennie. Catherine Hennie est directeur de recherche au CNRS. Elle est à l'École normale supérieure de Lyon. Et c'est elle qui a la responsabilité de la plateforme génétique qui a été créée par un organisme que vous connaissez bien qui s'appelle le CNRS. Elle a accepté de venir là, c'est sympa de sa part, parce que je crois, vous allez voir, que les techniques qu'elle utilise et ce qu'on arrive à faire, c'est tout à fait porteur d'avenir, et ça, c'est sûrement une partie de la paléontologie de demain. C'est-à-dire que là, on est résolument tourné vers l'avenir. Et je crois que même quand on étudie les vieilles choses, ce qui est important, c'est d'essayer de regarder ce qu'on va pouvoir innover, ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir. Et Catherine est une des collègues qui est résolument tournée vers l'avenir. Alors, vous allez voir que ça ne se fait pas sans embûches, qu'il y a des tas de problèmes. Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais je lui ai demandé aussi de vous parler de ces problèmes, parce que les choses ne sont pas simples. Alors, je sais bien qu'à la fin, vous risquez de garder le sentiment que dans le fond, tout ça, globalement, ce n'est pas sérieux parce qu'il y a plus de problèmes que de certitudes. Mais telle est la science, on n'a jamais de certitude. La seule certitude que l'on a, c'est notre incertitude. Catherine, tu as la parole.
Merci beaucoup, Michel. Et merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste, avant de commencer, dire une petite chose, c'est que normalement, mon intervention était prévue à la fin mai, donc après le cours sur les Néandertaliens par Michel. Donc, comme je vais parler pas mal de Néandertaliens, en fait, je vais laisser tout ce qui est morphologie, etc., je laisse à Michel et à mes collègues vous l'expliquer. Et donc, je vais me concentrer pour ce qui est sur les Néandertaliens, essentiellement sur le côté paléogénétique. Voilà. Alors, le titre de mon intervention est « Paléogénétique et ADN fossile, résultats et perspectives ». Alors, en effet, je pense que ce sont des méthodologies, des technologies qui sont tournées complètement vers l'avenir et qui nous permettront de faire des choses extraordinaires. Nous permettrons, mais nous ont déjà permis. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Ceci dit, avant d'aller dans le vif du sujet de l'utilisation de la paléogénétique pour l'étude des Néandertaliens, je pense qu'il est nécessaire de faire une petite introduction sur la paléogénétique, d'autant plus qu'il y aura un topo dans quelques semaines exactement utilisant ce même genre de technologie. Donc voilà, je vais d'abord vous raconter quelques généralités sur ces approches. Alors, on va commencer juste par deux mots d'histoire, puisque la paléogénétique a maintenant une vingtaine d'années. À la fois c'est peu et à la fois c'est beaucoup, parce qu'en 20 ans on a fait des pas extraordinaires. Et dans les technologies qu'on utilise, c'est-à-dire c'est essentiellement des technologies de biologie moléculaire appliquées à la paléontologie, 20 ans c'est énorme. Hein. Je veux dire, on parle de vieux résultats dès que ça a 5 ans, donc il faut relativiser les choses. Toujours est-il que, bien évidemment, donc l'idée d'aller récupérer de l'ADN dans des restes anciens a tout d'abord été focalisée sur des restes qui, à l'évidence, paraissaient très bien conservés, comme par exemple les momies égyptiennes ou les animaux taxidermisés. Alors en fait, ces restes sont très bien conservés morphologiquement, mais dans le fond, vous verrez que ce n'est pas les meilleurs substrats pour l'étude de l'ADN ancien de ces populations ou de ces espèces disparues. Alors, je vous ai montré tout à l'heure un quagga. C'est une espèce qui a disparu à la fin du siècle dernier. En fait, maintenant, il y a deux siècles, dirons, on va dire. Et pour lequel il y avait des problèmes entre les paléontologues pour sa position systématique, par rapport aux zèbres et aux chevaux. Et donc, dans les années, en 1984, l'équipe d'Alan Wilson a eu l'idée pour la première fois d'aller récupérer un peu de muscle à partir d'un animal taxidermisé et d'essayer d'extraire de l'ADN à partir de ce muscle taxidermisé. Et ils ont ainsi réussi à obtenir un petit fragment de quelques paires de bases, enfin environ 100 paires de bases, à partir d'un gène, l'ADN R12S. Et ils ont pu montrer que, en fait, le quagga était, avait une position systématique beaucoup plus, enfin, était un zèbre et non pas un cheval. Alors pourquoi est-ce que j'insiste spécifiquement sur cette approche, qui est un parce qu'elle est historique, mais parce que justement, je pense que là, pour la première fois, alors que d'un côté on avait la communauté des paléontologues et de l'autre côté on avait la communauté des biologistes moléculaires, plus précisément des phylogénéticiens moléculaires, on est donc au milieu des années 80, qui commençaient à séquencer en masse pour faire des arbres phylogénétiques, et bien pour la première fois ces deux communautés se rencontrent et on peut donc introduire une espèce disparue sur des critères moléculaires au sein d'un arbre phylogénétique. Et je trouve que chaque fois, bon, ça fait 15 ans que je mets cette diapo en premier, mais parce que ça, je pense que ça montre vraiment l'importance de ce qu'on peut enfin faire et de ces deux mondes qui se rassemblent et de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on pourra faire. Alors, de façon un petit peu rigolote, j'aimerais vous dire que vous le savez maintenant, enfin on le verra par la suite, en fait, on sait que l'ADN est... c'est une molécule très très stable et qui est, malgré différentes attaques, on va le voir, de l'environnement, etc., on peut récupérer de l'ADN à partir d'énormément de substrats anciens. Et j'aimerais focaliser ici aujourd'hui sur deux types de substrats, c'est que ben, tout ce qui est momies, animaux taxidermisés et d'autre part les ossements. Alors, tout ce qui est animaux taxidermisés, momies, etc., sont dus à des circonstances très très particulières, soit des environnements particuliers, soit qui sont très limités, soit à la main de l'homme, pour ce qui est taxidermie. Ils sont très bien conservés morphologiquement, ok, mais par contre, ils sont pas, leur représentation est très restreinte, hein, puisque ce sont des conditions particulières. Alors que les restes les plus fréquents sont à l'évidence les os et les dents, qui sont morphologiquement souvent beaucoup moins conservés, mais qui sont dus à des conditions de conservation moins restreintes, plus dispersées géographiquement. Ce sont les restes archéologiques les plus fréquents. Donc je dirais que c'est à partir du moment où on a pu montrer, au début des années 90, que l'ADN pouvait être récupéré à partir de ce type de substrat, qu'on est passé d'études qui étaient très anecdotiques, quelques momies, quelques animaux taxidermisés, à vraiment ce qui est devenu maintenant la paléogénétique. Donc la possibilité d'avoir accès au génome d'espèces et de populations disparues à travers le temps. À travers l'espace, bien sûr, mais à travers le temps. Alors, quelques généralités. Bon, l'ADN ancien, c'est fascinant. Vous en avez tous entendu parler. Il y a des potentialités énormes, mais... il y a quand même beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est un ADN, dans le fond, je vous l'ai dit, l'ADN est une molécule très stable, mais qui a subi les dégradations du temps et de l'environnement. Et ce temps et cet environnement ont une action sur cette molécule, la taphonomie. C'est-à-dire que, essentiellement, cet ADN est dégradé en vraiment tout petits morceaux. Alors que les phylogénéticiens moléculaires ou les gens qui font de la biologie moléculaire peuvent amplifier par la technique de PCR, qui est en gros, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, une photocopieuse à ADN, on peut obtenir beaucoup des longs fragments d'ADN. L'ADN ancien est dégradé en tout petits fragments, on va dire, pour faire court, d'environ 100 paires de bases. Donc vous imaginez que pour avoir assez d'informations génétiques, ça nécessite de cibler un grand nombre de petits fragments chevauchants pour obtenir une séquence analysable pour laquelle on peut tirer de l'information. Donc, et c'est un ADN qui est chimiquement modifié. En effet, essentiellement à cause de l'action de l'hydrolyse et de l'oxydation, on a en fait des modifications chimiques des bases. Ce qui fait que notre gros problème à nous, qui sont, c'est de ne pas confondre, dans le fond, des mutations artefactuelles dues à ces problèmes de taphonomie, de temps d'environnement, avec des mutations biologiques vraies, ce que nous, nous recherchons. D'accord ? Et là, tout est le dilemme. Hein ? Au début de la paléogénétique, il y a eu un certain nombre de travaux qui montraient des séquences qu'on appelle maintenant des séquences qui sont non authentiques, d'accord ? Des séquences qui avaient en fait des dégradations artefactuelles. Donc, tout notre travail, qui est en fait, je dirais, un travail d'archéologue de l'ADN, c'est de pouvoir récupérer d'une part de l'ADN dans des restes anciens, mais d'autre part, de l'authentifier. C'est-à-dire, d'une part, de savoir qu'il s'agit vraiment de mutations vraies et non pas de mutations artificielles, et qu'il n'y ait pas de contamination. Ce problème-là, vous en avez souvent entendu parler. Pourquoi est-ce qu'il est si important quand on analyse de l'ADN ancien ? Eh bien, c'est que, je viens de vous le dire, c'est une molécule qui est cassée en petits morceaux, qui est dégradée, qui est chimiquement modifiée, très petite quantité également. Donc, ce qui fait que c'est un très mauvais substrat pour l'enzyme, la TAC polymérase, qu'on utilise lors de cette technique d'amplification qui est la PCR. Ce qui fait que, imaginez que dans un tube où vous avez de l'ADN extrait à partir d'ossements, vous avez une minuscule, mais vraiment minuscule, contamination par de l'ADN moderne, de l'ADN actuel. Okay ? Pour diverses raisons, ça peut être de l'archéologue au début de la fouille jusqu'au biologiste moléculaire. Eh bien, la réaction d'amplification va démarrer parce qu'il y a assez d'ADN dans le tube, puisqu'on a notre ADN ancien qui est présent, qui fait ce qu'on appelle l'effet carrière, c'est-à-dire il est là. La PCR démarre, mais comme l'attaque polymérase n'arrive pas à lire cet ADN ancien, eh bien, elle va sauter, je vais dire, sur ce qui lui paraît le plus simple, même si c'est présent en petite quantité, qui est l'ADN moderne. D'où cette énorme difficulté d'obtenir de l'ADN ancien non contaminé. D'accord ? Je vous fais peur, mais vous verrez qu'on a quand même... On a maintenant des possibilités de s'en affranchir, le plus possible, on va dire. Voilà. Donc, tout le problème est là. Ce n'est pas parce que les paléogénéticiens travaillent mal par rapport à ceux qui font de la biologie moléculaire, c'est parce qu'on a entre les mains, un substrat très particulier. OK ? Voilà. D'où cet énorme problème de contamination. D'où notre gros problème, donc, c'est à la fois, qu'est-ce qu'on fait les paléogénéticiens ? Je vous ai dit, on est des archéologues de l'ADN. Donc, ça nécessite, pour obtenir des séquences authentiques, d'une part, de travailler dans des laboratoires spécifiques qui sont en surpression, irradiés aux UV en notre absence, etc., des laboratoires hyper stériles, on verra à la fin. Et d'autre part, ce sont des compétences particulières pour analyser ces séquences anciennes, pour être sûr qu'elles soient bien authentiques. Voilà. C'était juste une petite illustration, très simple, pour vous raconter que voilà, la différence entre un archéologue de l'ADN et un biologiste moléculaire, c'est que nous, on se retrouve dans la situation du bas, avec des petits morceaux, et on essaie d'obtenir... Ce sont des fragments très courts, donc on essaie d'obtenir, on accumule les différentes analyses de séquences pour obtenir des longs fragments pour en tirer de l'information. Mais c'est un travail qui est très, très conséquent. Hop, c'est pas vraiment éteindre que je veux faire. On va vite redémarrer. J'espère... Non, annuler, ça ira plus vite. Tout à fait, excusez-moi. Voilà. Et c'était une illustration pour vous montrer voilà, dans quelles conditions on doit travailler pour faire de la paléogénétique. Donc, c'est carrément un laboratoire P4, mais qui est en surpression pour éviter les contaminations par l'extérieur. Et puis, très rapidement, dans le fond, la façon, je veux dire, dans nos différentes étapes, en sachant que notre gros problème, je vous ai dit, c'est d'avoir des séquences authentiques. Donc, quand on a... C'est, en fait, pour avoir la séquence authentique, on est obligé de reproduire de façon indépendante nos résultats. C'est-à-dire, non seulement on les reproduit plusieurs fois dans le laboratoire, mais on les reproduit entre laboratoires. Au sein d'un même laboratoire, on ne fait pas une analyse pour obtenir une séquence à partir du produit de PCR qu'on a. Ce qu'on fait, c'est qu'on clone, donc pour obtenir plusieurs séquences à partir du même ADN de départ, et on compare ces différentes séquences, nos différentes clones, pour essayer de reconstruire la séquence authentique. Je vous raconte, ici, c'est une séquence qu'on appelle une séquence consensus, qu'on estime authentique. Pourquoi ? Elle dérive de trois manipulations indépendantes. Chaque fois que vous avez un petit point, c'est que c'est identique ici. Donc on voit qu'ici, tout le long, indépendamment, c'est un petit point, ça veut dire qu'en fait, on avait toujours un A, donc on met un A ici. Par contre, on voit qu'ici, indépendamment, une fois sur deux, trois, pardon, on a eu un T. Okay ? Donc on estime que c'est celle-là, qu'on connaît, par exemple, dans d'autres espèces pour comparer, qui est la bonne séquence. Et ici, on met un C, ainsi de suite. Et par exemple, ça nous permet d'observer ces mutations artefactuelles. Et c'est très intéressant parce que ça nous donne aussi le degré de dégradation d'un substrat dans un environnement donné, par exemple. Okay ? Donc ça nous amène à la séquence authentique, mais ça nous donne l'information sur la dégradation de l'ADN lui-même. Bon, une petite illustration de choses qui sont arrivées dans la littérature, qu'on a testées, nous, au laboratoire, je vous raconte. On a travaillé, par exemple, sur le rhinocéros laineux, dont on cherchait la position phylogénétique. Alors, on s'est amusé à analyser nos séquences non-consensus, non authentifiées, ce qui sortait de nos tubes de PCR sans analyse importante pour pouvoir les authentifier. Et vous voyez qu'on avait trouvé une phylogénie, ces trois fragments ici sont des fragments du même individu hein, que ça. Eh bien, sans qu'ils soient authentifié, vous voyez qu'on obtient une phylogénie complètement différente, alors que la séquence corrigée hein, nous a permis de retrouver la vraie position de Celeodenta intricutatis, d'accord, parmi ses taxons frères. Donc voilà un exemple de ce qu'il faut réaliser, c'est-à-dire vraiment une authentification des séquences. Et j'avoue quand même qu'avec le temps, heureusement, les gens se soumettent à ce type d'exercice d'authenticité et la paléogénétique, après être passée par différentes étapes, maintenant a atteint son âge mûr et on espère que la plupart des labos réalisent ce genre d'analyse. Voilà. Alors, la dernière diapositive déprimante, c'est que c'est vraiment sûr que c'est travailler sur l'ADN ancien. Parce que la communauté internationale a décidé, en fonction de tous ces problèmes, d'avoir un certain nombre de critères d'authenticité qu'on est obligé d'appliquer pour publier une séquence ancienne. Et ce que nous, on réalise au quotidien, c'est ce qu'on appelle des PCR. Donc, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire, vous avez ici des petites bandes blanches qui montrent que la réaction d'amplification a été obtenue. Alors, je vais vous décortiquer cette analyse. Il s'agit d'un collègue qui a travaillé sur des ossements humains anciens venant de Shukuchen, en Chine. Alors, il a appliqué un certain nombre de critères d'authenticité qui étaient qu'à l'époque, on pensait que, par exemple, la racémisation avait un certain nombre de critères qui étaient nécessaires pour que ce soit en corrélation avec la récupération d'ADN ancien. Donc, les échantillons ont passé ce critère. Les contrôles, je voulais vous en parler, étaient OK. Par exemple, la reproduction, on va le voir après. Et puis, il a obtenu une séquence sans faire le travail que je vous ai dit là tout à l'heure. Il avait obtenu une séquence directe, c'était OK. Alors, ces contrôles, on va les voir. Vous avez ici ce qu'on appelle des contrôles vides. On n'a rien mis dans nos tubes, on n'a bien pas du tout de résultats, comme vous le voyez. Et puis, il s'agissait dans nos dents humaines de deux dents provenant du même individu, donc pour lequel on devait obtenir la même séquence. On avait bien un résultat positif. Il a refait ça indépendamment, puisque je vous dis que notre problème, c'est qu'on cherche toujours à reproduire. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de résultat, il est OK. Et puis là, c'est bon. Et il analysait une portion de l'ADN mitochondrial qu'on appelle la déloupe qui permet de faire la différence entre les individus. Donc après séquençage direct, comme je l'ai dit, super content, il regarde la séquence directe, j'ai qu'une séquence. Donc c'est super, il a obtenu à partir de deux dents, deux fois indépendamment, il a obtenu la séquence d'un homme de Shukuchen. Mais quand il commence à regarder par le système de clonage, je vous ai dit, c'est non seulement un individu qu'il a trouvé, mais 20 individus qui correspondent à toutes les personnes qui ont manipulé cette dent depuis la sortie de la fouille jusqu'à la biologie moléculaire. D'accord ? Donc, je veux juste vous dire par là qu'évidemment, on peut trouver, si on ne fait pas les contrôles nécessaires, on a des bons résultats. D'accord ? Donc, moi, je préfère les résultats où on dit, etc., j'ai fait telle et telle analyse, je suis contaminée, j'étais au bout et je peux tracer ma contamination. OK, je fais confiance à ces papiers-là. Ceux qui me disent j'ai obtenu tel résultat, mais qui ne montrent pas la traçabilité, et qui disent qu'ils n'ont pas de contamination, ben, moi, je n'y crois pas du tout. OK, parce que c'est vraiment extrêmement difficile, d'autant plus quand on travaille sur l'eau. Et ce qui n'est pas dans la diapo, mais que je vais vous révéler, c'est qu'il ne travaillait pas du tout. En fait, c'était pas dans la publi, il nous a grugé, il le dit simplement à la fin de la publication, mais il l'a fait exprès, hein, c'était voulu. Il nous raconte que ce n'était pas une dent humaine du tout. Il travaillait sur une dent d'ours des cavernes. Okay. Donc voilà tout ce qu'il a obtenu sur une dent d'ours des cavernes. Voilà. Mais c'est normal, hein, il avait ciblé, il avait recherché de l'ADN humain. Voilà. Donc c'est une manipulation type qu'on raconte dans tous les congrès, mais je pense qu'elle est vraiment importante pour montrer la difficulté des choses. Voilà. J'avais mis. Une autre question que tout le monde me pose, alors je la mets avant la question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on peut récupérer de l'ADN ? Quelles sont les limites de la récupération de l'ADN ? Alors, c'est très intéressant parce qu'au début des années 90, quand la communauté commençait à s'exciter avec ces techniques-là, il y a pas mal de données qui sont sorties sur des possibilités de récupérer de l'ADN à partir d'éléments très, très anciens. Et puis, il y a eu une étude théorique, celle de Lindahl, qui a montré qu'en fait, simplement de façon théorique, un fragment de 800 paires de bases d'ADN dans de l'eau, simplement, donc seulement l'action de l'hydrolyse, était en fait complètement dégradé au bout de 10 000 ans. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que d'une part, on avait des gens qui, théoriquement, avec des équations mathématiques, montraient cela. Et puis d'autre côté, on avait des résultats qui sortaient d'âge de 100 à 150 000 ans, etc., jusqu'à d'autres choses dont je ne vais pas en parler, mais on sait maintenant que c'était de la contamination, jusqu'à des fragments d'ADN du Miocène. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a une période d'incertitude. Alors c'était très difficile parce que ceux qui avaient des résultats de 100-150 000 ans, on n'y croyait pas parce que théoriquement, c'est à bout de 10 000 ans, il n'y avait plus rien. Et puis d'un côté, c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui sortaient qui étaient complètement délirants et beaucoup trop vieux. En fait, ce qu'on sait maintenant, pour faire simple, c'est que beaucoup plus que l'âge, c'est l'environnement qui est important. Okay ? Alors, on sait qu'il y a quatre facteurs essentiels, l'hydrolyse, l'oxydation, l'autolyse et la présence de micro-organismes. Ce que je vous dis là n'est absolument pas définitif, parce que dans le fond, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on ne sait rien. Okay ? Mais ça, on sait que ça l'est. Et du coup, il y a des environnements, ces quatre actions, hydrolyse, oxydation, etc., peuvent être modulées par le pH, la température, la dessiccation, la pression et sûrement beaucoup d'autres choses. Ce qui fait qu'on a des environnements particuliers, par exemple les glaces, de toute évidence, ou parce que, mine de rien, on a une haute pression, une forte dessiccation, peu d'oxygène, etc., on a un abaissement de tous ces facteurs et qu'il y a les chances que l'ADN soit préservé plus longtemps que dans certains autres environnements. Je vous montrerai un exemple à la fin à partir des glaces, par exemple. Donc, voilà ce qui permet de moduler la présence d'ADN. Ceci dit, soyons clairs, rien qu'avec l'action de l'hydrolyse et de tout ça, à mon sens, il ne faut pas espérer récupérer de l'ADN de plusieurs millions d'années. Okay ? Maintenant, il y a à l'heure actuelle, on va dire, 200 000 ans, mais ce que je dis, ne le prenez pas comme quelque chose de sûr, ça peut bouger en fonction des environnements, etc. D'accord ? Et puis c'est très intéressant parce que c'est très difficile de définir un environnement, et puis on voit aussi, nous, que les micro-environnements sont extrêmement importants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un endroit donné, on a trois échantillons qui ont fonctionné, qui ont marché, qu'à côté, ça va marcher de la même façon. Voilà. Alors, malgré toutes ces difficultés, qu'on a réussi à optimiser quand même les technologies petit à petit. Alors, il y a un grand nombre d'espèces, par exemple, là j'ai mis les espèces disparues, qu'on a pu analyser. Et je me suis arrêtée à 2000 parce que là c'était flagrant, mais on pourrait continuer. Hein. En 85, le zèbre quagga dont je vous ai parlé, en 2000, vous voyez, plus d'une quinzaine d'espèces, et puis maintenant, je compte plus ce qu'il est de la phylogénie d'espèces éteintes, en sachant que je me suis concentrée ici vraiment sur des problèmes de phylogénie. L'ADN ancien, vous le savez, on va voir un petit peu à la fin, peut être utilisé à des tas d'autres applications, que ce soit des applications en paléontologie, en archéologie, mais aussi dans des choses, des substrats actuels qui ont subi des dégradations, qui miment en fait les dégradations du temps et de l'environnement. Je donnerai par exemple les substrats agroalimentaires, les fécès, les cuirs, les ivoires, etc., qui sont des substrats particuliers où l'ADN est présent en très petite quantité, mais est encore présent, sont utilisables grâce à ces technologies mises en place par la paléogénétique. Alors, c'était juste pour illustrer ce que j'ai dit précédemment. La plupart de ces espèces-là, maintenant, ont été séquencées. Je vais juste faire une petite digression, mais je n'irai pas plus loin. Séquencées, ça ne veut pas encore dire cloner. Okay, il y a encore plein d'étapes possibles. Simplement, j'aimerais dire que, autant j'ai dit pendant plusieurs années que ce ne serait jamais réalisable, je suis beaucoup moins claire actuelle et j'aimerais que la communauté, la société se penche sur ce problème-là du clonage des animaux disparus, par exemple. Parce que je pense qu'il vaut mieux le faire avant et être prêt au moment où ça arrivera que d'être assez surpris. Voilà, alors je remets la même image pour en fait dire que je vous ai parlé de phylogénie, d'espèces disparues. Dans le fond, c'est intéressant, mais c'est quelque peu anecdotique, parce que moi, ce que je pense, et c'est là tout l'intérêt de l'outil, c'est qu'en plus, on peut... La possibilité d'avoir de l'ADN dans des substrats à différents moments, c'était une façon de voir l'évolution en marche, quelque sorte. Et je vais me focaliser particulièrement maintenant sur l'étude d'une grotte, qui est la grotte de Skladina en Belgique, sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et on a beaucoup travaillé au départ sur une espèce qui est devenue maintenant une espèce modèle en paléogénétique, qui est l'ours des cavernes, Ursus peleus. Et je crois que j'ai sauté une diapo. Bon, j'avais une diapo de la grotte. Oui, bon, alors on va faire comme ça. Et dans cette grotte à Skladina, pour l'ours des cavernes, je reviens en arrière, excusez-moi. Comme je vous l'ai dit, on a pu tout d'abord montrer sa position phylogénétique et je montrais, pour faire court, qu'en fait, c'est une espèce sœur des ours bruns qui ont été contemporains, mais ours bruns actuels également, et que c'est bien une espèce très différente de l'ours brun, mais je vais faire rapide. Alors revenons à cette grotte de Skladina, qui est une grotte très très intéressante, qui est située près de Namur, en Belgique. Et elle est très intéressante parce que c'est une grotte, on va voir qu'il y a une très belle stratigraphie, qui est une grotte qui a permis son étude sous différents angles. Donc on va le voir, la paléogénétique, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la sédimentaux, de la paléno, de la présence des rongeurs, etc. Et donc on a un cortège de données venant de disciplines différentes pour comprendre en fait ce qui se passe dans cette grotte. Alors, elle est très intéressante, pourquoi ? Parce qu'on a une très très belle stratigraphie sur plus allant de moins 130 000 à moins 40 000 ans environ, ce qui fait que sur plus de 100 000 ans, on a vraiment une très très belle stratigraphie, ce qui est très très rare en Europe, avec des couches très bien identifiées. Et que pour nous, ce qui était intéressant, c'est que tout le long de ces couches, on a la présence d'ours des cavernes en grande, grande quantité. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est, dans chaque couche, indépendamment, analyser la diversité génétique à partir de ces ossements d'ours. Et on a pu montrer, pour la première fois, on a pu montrer que, on a regardé cette diversité, que la diversité de l'ours des cavernes dans une certaine couche était beaucoup plus grande que dans les autres couches et on a donc pu montrer qu'il y avait une corrélation en fait avec cette diversité et un climat particulier, c'est l'interstate Saint-Germain où la température est beaucoup plus importante. Et pour la première fois, donc, on peut relier l'évolution de la diversité génétique avec les différentes périodes climatiques. Et donc, évidemment, ce qu'on est en train de faire actuellement, pas dans cette grotte, mais aussi également avec d'autres modèles, c'est de voir justement si la diversité diminue au moment de l'extinction de certaines espèces. Donc, c'est un bon modèle pour tout ce qui est biodiversité et changement climatique. Alors, c'était rapidement pour vous parler de cette grotte en introduction et du fait qu'on y avait donc fait des premières études sur la diversité de l'ours à travers le temps. Et puis, il s'avère que, alors qu'on travaillait déjà sur cette grotte, en décembre 2001, dans la couche 4 ici, nos collègues ont retrouvé une petite dent. Et que cette dent, on pouvait exactement la replacer sur la mandibule, qui est la mandibule de Sklin, qui est la mandibule d'un enfant qui avait été trouvé auparavant dans la grotte. Donc c'était assez extraordinaire parce qu'on était tout de suite certains que cette dent était une dent néandertalienne. Et on va voir pourquoi elle était vraiment très, très intéressante. Alors, rapidement, et ça, ce sont mes collègues qui vont en parler, donc j'aborde le problème des Néandertals. J'ai vu que tu avais mis les mêmes photos tout à l'heure. je ne vais pas parler de morphologie aujourd'hui. Donc, vous savez que les Néandertaliens sont présents d'environ 300 000 ans et se sont éteints il y a 28 000 ans. Et ce qui est assez... Donc, toute la question, on va pour faire simple, est les relations entre sapiens et Néandertal. La question banale est-ce qu'il y a eu croisement entre ces deux espèces ? Est-ce que nous avons en nous un pool de gènes qui viennent des Néandertaliens ? Alors, pour faire simple, les Néandertaliens sont présents en Europe depuis depuis plus longtemps, mais on va dire que leur cohabitation avec l'homme moderne est présente de 42 000 à 28 000 ans, et donc il y a environ 10 à 15 000 ans d'overlap entre les deux espèces potentielles. Et donc il était intéressant pour les paléogénéticiens d'aller voir le génome d'un néandertalien et comparer ce génome avec sapiens actuel. Alors, donc c'est la question qu'on connaît tous en anglais sur le nom d'interbreeding. Y a-t-il eu de l'interbreeding entre les deux espèces, en sachant qu'il y a des restes pour lesquels, donc par exemple la Garvego, pour lesquels, d'un point de vue morphologique, il y a des suspicions d'interbreeding avec l'homme. Alors, qu'est-ce qui a été montré par les paléogénéticiens ? Donc, la première étude remonte en 1997 et ça a fait la couverture d'un journal, d'un très bon journal qui est la couverture de Cell et qui a titré « Neanderthals were not our ancestors ». En fait, l'équipe de Santé Pebo a réussi à récupérer de l'ADN à partir du spécimen type de Feldhofer de 38 000 ans. Et ils ont pu récupérer des petits, comme vous le voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'obtenait que des petits fragments, donc toute une série de petits fragments chevauchants pour montrer que chaque fois, c'était bien la suite du fragment précédent. D'accord ? Et ils ont comme ça obtenu un petit fragment d'ADN mitochondrial sur une région, toujours la même région dont je vous ai parlé tout à l'heure, la région HVR1, qui permet de distinguer non seulement les individus, mais aussi les populations. Et d'aller population humaine. Et donc d'aller voir comment se comportait ce petit fragment d'ADN de néandertalien par rapport au fragment identique qui est connu pour la plupart, enfin pour même l'ensemble des différentes populations humaines. Alors c'est 1997, hein, ça date déjà. Et qu'est-ce qu'ils ont pu montrer? Alors, ma diapo est un peu vieille, vous le voyez. j'avais trouvé une... j'aurais dû changer depuis. Donc, à partir de ce petit fragment de Néandertalien, en fait, c'est pas celui-là, mais bon, à partir d'un petit fragment, ils ont pu montrer, vous le voyez ici, que les Néandertaliens étaient complètement en dehors de la variabilité génétique connue pour les différentes populations humaines actuelles. Donc, on était en fait en présence de deux clades bien distinctes. Donc, même si la couverture de nature y était allée un petit peu fort en disant que ce n'étaient pas nos ancêtres, ça allait quand même dans le sens du fait qu'il n'y avait pas eu de croisement, ceci dit, enfin, qu'ils n'étaient pas nos ancêtres, attention à ce que je dis, parce qu'on peut imaginer qu'il y a eu de l'interbreeding, qu'il y a eu des croisements, mais qu'ensuite il y a eu une sélection négative sur ces individus qui auraient été des individus croisés. D'accord ? Mais je dis, dans notre pool génétique actuel, on n'a pas, je dirais, de reste de gènes de néandertaliens, on va dire ça comme ça. Donc, c'était quand même une première, parce que bon, ça a soulevé beaucoup de discussions parmi les communautés, à la fois des paléogénéticiens, et surtout des communautés d'anthropologues. Mais je pense que c'était quand même un pas très, très important, même si il y a des discussions, etc., sur ces résultats-là, en sachant qu'à l'époque, ce que les gens ont mis en évidence quand ils avaient une vue négative de ce résultat, c'était oui, mais il s'agit d'un individu à un moment donné à 35 000 ans. Qu'est-ce qu'il en est des autres? Qu'est-ce qui est de la variabilité géographique, par exemple? Okay. Alors, c'était pour vous dire que j'ai mis la date de 2006, vous allez voir pourquoi, qu'on voyait par exemple ce qu'on pouvait observer quand on regardait cette séquence d'ADN, c'est que si on regardait les différences qu'il y a entre toutes les populations humaines, sapiens et néandertal, ou l'homme et le chimpanzé, eh bien, on voyait clairement qu'on voit deux poules bien séparées entre les différences qu'on observe entre chaque mutation de A2 entre l'homme et le néandertal et les populations humaines. Donc là aussi, c'est une autre analyse qui permet d'aller dans le même sens. Voilà, eh bien, je reviens maintenant à notre petite mandibule de Scladina. Et c'est pour ça, donc nous sommes là en 2006 lorsque nos résultats sont sortis. Et c'est pour ça que je vous ai dit avant ce qu'on connaissait, ce qu'on savait des néandertaliens. En sachant qu'entre-temps, il faut être clair, il y a beaucoup d'autres études qui sont sorties en analysant justement d'autres spécimens d'âge différent, mais toujours après 42 000 ans, venant de provenances géographiques différentes et qui allaient toujours dans le même sens. D'accord ? Alors... on a commencé ce travail en 2002, donc on a analysé cette petite dent de Sclin, en sachant qu'elle a été datée par spectrométrie. Alors, on savait que pourquoi d'enfant on a décidé de travailler sur cette dent. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte particulier, mine de rien, il était important, c'est que cette dent, dès qu'elle a été trouvée, comme on était déjà en collaboration avec l'équipe, ils sont tout de suite arrêtés quand ils ont fouillé et ils ont pris des précautions particulières pour fouiller dans des hyper bonnes conditions. C'est-à-dire qu'une fois que la dent a été trouvée, le carré a été laissé et on sait exactement quelles sont les personnes qui ont fouillé ensuite sur le carré. Et d'ailleurs, les personnes qui ont travaillé, que ce soit les archéologues, les anthropologues, puis ensuite les biologistes moléculaires, ont été typées pour être sûres que ce n'est pas notre ADN qu'on retrouve dans cette mandibule de Néandertal, cette dent, pardon, de Néandertal. Les arguments qui allaient en notre faveur, c'était que, justement, le contenu en collagène allait dans le bon sens et que nous avions obtenu dans l'équipe, je crois que j'ai une diapositive après, déjà un certain nombre de résultats dans cette grotte concernant à la fois l'ours des cavernes, je vous en ai parlé, le rhinocéros, la hyène, etc. Donc on savait qu'on était dans un milieu où l'ADN était bien préservé. Et si je reviens en arrière, Je voulais quand même vous dire, on va le voir plus tard, que ce travail était un travail considérable parce que sur 210 essais de PCR, okay, on a eu 6 résultats positifs que je vais vous expliquer après. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, on ne va pas jusque-là. C'est énorme, 210 essais de PCR. Les gens qui s'arrêtent à 10, 15 et qui disent qu'il n'y a pas d'ADN là-dedans, bon, évidemment, on se trouve toujours dans cette situation, mais est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Donc ça dépend aussi des enjeux qui sont derrière. Est-ce que ça vaut la peine de passer autant de temps, autant d'argent, selon la question qui est posée? C'est là la problématique dans laquelle on se trouve, en sachant, comme je vous l'ai dit, qu'on ne sait qu'à la fin de toute la manip si vraiment notre résultat était authentique ou pas. Donc c'est un challenge. Donc, eh bien, voilà un petit peu, bon, pour ceux des résultats peut-être un peu bruts, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'était pour vous illustrer le fait, eh bien, qu'on a travaillé comme ça, des amplifications successives. Et puis, la séquence, pour revenir à la séquence tout à l'heure que je vous avais montré, celle de Bebo, bah, c'est pareil, hein, des fragments chevauchants analysés plusieurs fois pour reconstruire une séquence authentique de 123 paires de bases. Alors, bien le résultat, qu'est-ce que ça a donné? Donc, soyons clairs déjà, quant au fait que les Néandertaliens étaient en dehors de la variabilité humaine des différentes populations actuelles, c'est exactement le même résultat qu'on obtient. Vous voyez ici qu'entre-temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait eu Feldhofer ici, il y a eu 2 échantillons de Vindija, il y a eu un autre de Feldhofer, Mesminskaya, voici Skladina. Vous voyez que c'est clair, le résultat est clair. Pour ça, on a confirmé les analyses précédentes. En quoi notre analyse était particulièrement importante? Eh bien, je n'ai pas été dans le détail tout à l'heure par rapport aux dates, mais je vous ai dit que Feldhofer avait 38 000 ans. Je vous ai dit aussi que la cohabitation entre Sapiens et Néandertal servira en moins 42 jusqu'à moins 28. Donc, tous les autres échantillons qui sont ici sont des échantillons qui ont été analysés dans la période où potentiellement il y a pu y avoir inbreeding. D'accord ? L'avantage de notre échantillon, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure, il a 100 000 ans environ. Donc l'avantage, c'est que ça nous permet de voir ce qui était présent chez un Néandertalien avant la cohabitation et l'inbreeding possible. Voilà tout l'intérêt de l'analyse de cette petite dent de Néandertalien. Et ce que vous pouvez déjà voir là, et c'est ce qu'on a montré dans nos analyses, c'est que Skladina, il est encore une fois en dehors des autres branches qu'on avait vues pour les autres échantillons, il est carrément plus loin. Et qu'est-ce que ça montre? Et ça a été la première analyse à montrer ça, qu'en fait, il y a plus de diversité génétique chez les Néandertaliens que ce qu'on avait jusqu'en 2006 prévu par l'analyse des échantillons précédents. Encore, pardon, excusez-moi. C'est que donc il y a beaucoup plus de diversité génétique sur les Néandertaliens qu'attendu. Et simplement pour vous dire que c'est simplement, bon, vous voyez Skladina ici qui est comparé à d'autres séquences et qu'il y a une analyse à la suite de la nôtre sur des échantillons de Montelessini, je pense que Sylvana Condami va vous en parler. Condemi, pardon, va vous en parler, de 50 000 ans, et vous voyez que lui aussi, alors là, je le vois là, voilà, si on observe, et pour ceux qui connaissent, ils peuvent regarder, on a une diversité génétique de Montelessini qui fait qu'il est, pas une diversité génétique, une séquence qui fait qu'il est en dehors de la diversité qui était jusqu'alors connue. Alors, je vous ai montré ce que peut, à part deux exemples, d'une part pour ce qui est la phylogénie, d'autre part sur ce qui est l'étude de la diversité, ce que peut amener potentiellement l'ADN ancien, la page génétique, à travers deux exemples. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, avec l'acquisition de toutes ces séquences, maintenant, on sait exactement faire la différence entre un fragment d'ADN sapiens et un fragment d'ADN de Néandertal. Et c'est très, très pratique, d'une part, parce que je vous ai parlé du problème de contamination au départ. Eh bien, Et ça a d'ailleurs été l'objet de la discussion au premier résultat de sur Feldhofer, c'est qu'est-ce qui est de la contamination humaine, qu'est-ce qui est vraiment néandertalien. C'est que maintenant, en accumulant ces différentes séquences et en faisant ce qu'on appelle des alignements, on est capable de voir des sites spécifiques des néandertaliens. Des sites, pour ceux qui ne font pas la biologie moléculaire, un site, nous, c'est une base spécifique, hein, une mutation spécifique qui permet de faire la différence. Donc c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on lance ce qu'on appelle nos oligonucléotides des primers, nos petites sondes pour faire la PCR, qui permettent d'amplifier spécifiquement du néandertalien ou du sapiens. Et ça nous permet deux choses, de voir s'il y a du sapiens dans un os potentiellement, mais de voir aussi le pourcentage, je dirais, de sapiens, donc de contamination, dans un échantillon dont on sait, parce qu'on retrouve des séquences de néandertalien, que c'est un néandertalien. D'accord ? Ça, c'est méthodologiquement très, très intéressant, parce que ça nous permet justement de faire la part des choses, okay, et de voir qu'est-ce qui est vraiment néandertalien, qu'est-ce qui est vraiment sapiens, et ce ratio entre les deux, et qui nous donne un degré de contamination potentielle d'un échantillon, qui est très important, parce que on va en parler après, vous avez tous entendu parler du génome de néandertalien. Après, on va en parler, il y a ta discussion sur est-ce que c'est contaminé ou pas. Ça nous donne une première approche, et de savoir si l'échantillon qu'on choisit est vraiment le bon pour faire ce type d'analyse. Celui dont on sait que potentiellement, il y a plus de sapiens ou pas. Alors justement, je vous donne quelques exemples ici. Sur, vous voyez, Vindija, le ratio Vindija, les deux analyses successives pour deux fragments indépendants, il y a beaucoup de séquences dentales, très peu d'humaines. Et puis El-Sidron, par exemple, c'est la même chose. Par contre, Teshik-Tash, il y a une analyse qui a montré que c'était 100% de l'humain. Et puis sur Teshik-Tash, par exemple, 99%, mais une toute petite part de néandertalien. Après, il faut faire la part des choses, trier, etc. Ça, on commence à savoir faire. Mais ça veut dire que cette petite part, elle existe quand même. Donc, selon la valeur, je dirais, selon la valeur intellectuelle de l'échantillon ou la valeur potentielle de l'échantillon, on peut ou pas aller voir et décider après ce genre d'analyse du ratio d'ADN humain, sapiens, et néandertal. Et puis, ça donne une autre possibilité. C'est que donc, je vous l'ai dit, on connaît des séquences spécifiques de néandertaliens. Alors, ce type d'analyse a été réalisé sur des ossements dont beaucoup de paléontologues hésitaient à savoir si oui ou non c'était ou pas des néandertaliens, pas mal de discussions. Et par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans Teshik-Tash, on a pu montrer la présence de fragments de néandertaliens. Donc ces ossements pour lesquels il y avait un doute morphologique ont pu, grâce à la paléogénétique, être attribués à l'espèce néandertale. Et ainsi, donc, montrer que les néandertaliens étaient présents beaucoup plus à l'est que ce qui avait été déterminé auparavant comme étant spécifiquement européen, notamment. Voilà. Et ce genre d'analyse, je vous montre sur le néandertal, parce que, bon, aujourd'hui, c'est le sujet, mais c'est ce qu'on commence à faire assez classiquement quand on collabore avec des paléontologues ou des archéozoologues. Et on a pu, par là, étendre des aires de répartition de certaines espèces pour lesquelles, morphologiquement, ce n'était pas si évident. Dans l'autre sens aussi, soyez clair, que je sois clair, on a fait la chose inverse. C'est-à-dire des espèces pour lesquelles on avait une masse de sous-espèces, etc., on a pu montrer que c'était de la diversité, simplement. La variabilité. Voilà. Donc, un intérêt encore de la paléogénétique. Voilà. Et puis, si on revient à ces dernières études, en mettant maintenant dans cette phylogénie l'ensemble des échantillons, notamment notre échantillon de Sclin ici, vous voyez qu'au départ, Feldhofer, Mesmiskaya, tout ça, c'était des choses qui étaient assez proches. Et bien, maintenant, on a carrément, je dirais, de clades, ou je ne sais pas comment il faut les définir, différents, en tout cas des populations différentes. D'ailleurs, l'analyse, le Scladina, est, je vous ai dit 100 000 ans, est très proche de Tétishkash. Et ça, c'est intéressant, parce que si vous regardez, ce sont des échantillons qui sont beaucoup plus anciens que l'ensemble des autres. Et justement, donc ça veut dire qu'il y a une certaine diversité génétique chez les néandertaliens et que cette diversité, elle semble être plus importante pour retrouvées de façon plus diverse chez les échantillons anciens que chez les échantillons actuels. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, va continuer. C'est-à-dire qu'il est clair qu'il y a un grand nombre d'équipes qui travaillent sur la variabilité potentielle des Néandertaliens. Je pense que Sylvana Condemi va vous en parler. C'est quelque chose qui nous semble, nous, maintenant, pagéticiens, assez évident. Mais pour revenir à ce schéma, je vous ai dit, ils sont anciens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a une hypothèse, qui est l'hypothèse qu'on a eu une stabilité démographique des Néandertaliens relativement anciens, d'accord? Et puis que, dans les échantillons plus récents, on ne retrouve pas, en fait, on va dire que ça comme ça, les mêmes séquences, la même diversité, et que probablement, ça s'agit d'un bottleneck démographique, un abaissement drastique de la population des Néandertaliens, avec certains groupes qui se sont éteints. Et ça, c'est tout à fait corrélé avec les changements climatiques qui sont produits à cette période. Et d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, pour l'ours, c'est pareil, dans les mêmes périodes. Donc l'ours est vraiment un bon modèle également pour utiliser, pour voir ce qui se passe au niveau des différentes populations à cette époque-là. Alors, justement, c'est juste deux minutes pour vous dire qu'il y a l'acquisition des séquences en ADN ancien, mais maintenant, il y a tout un pan de cette discipline qui part vers la modélisation. Parce que certes, on acquiert beaucoup de séquences anciennes, c'est très intéressant, mais pour le moment, on n'avait pas les outils pour les analyser. C'est-à-dire que quand même, quand on parle de séquences anciennes, à travers le temps, imaginez qu'on compare des séquences à des temps différents par rapport à des séquences actuelles. D'accord ? Donc, ça pose quand même un problème d'hétérochronie des données. Donc, il y a énormément de gens qui se lancent dans l'analyse, la modélisation de ces séquences anciennes. Et je crois que là il y a vraiment beaucoup de travail à faire parce que on pourra en tirer des informations. Non seulement, je veux dire, il est important d'avoir techniquement, méthodologiquement des séquences intéressantes, mais il faut appliquer des modèles mathématiques qui permettent vraiment de s'adapter à cette situation, sinon on raconte n'importe quoi, hein, c'est toujours pareil. Donc c'était simplement pour vous dire qu'il y a des gens qui le font et qu'au laboratoire, on a développé ce genre de choses avec notamment, si vous voulez, en proposant des modèles démographiques de bottleneck à différentes périodes et en les testant, en simulant et en testant ces différentes hypothèses. Que ce soit sur l'ours des cavernes, les Néandertal, etc. C'est plus général. Voilà. Je passe à autre chose, qui est que jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que d'ADN mitochondrial. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on a deux types d'ADN, tous les êtres vivants ont deux types d'ADN, et qui est l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire, et que la plupart des études, au début, se sont focalisées sur l'ADN mitochondrial, d'une part parce qu'il est présent en plus grande quantité, et puis, comme il est présent en plus grande quantité, il y a moins de chances qu'il soit, il est présent dans un grand nombre de copies, donc comme l'ADN est dégradé, il y a moins de chances que celui-là soit dégradé, ou plutôt, c'est faux ce que je dis, il a plus de chances de récupérer une copie d'ADN mitochondrial que d'ADN nucléaire, pour être exact. Ceci dit, les technologies avancent, il y a des problématiques importantes qu'on ne peut pas résoudre avec l'ADN mitochondrial. Donc, dans la communauté, de plus en plus, on essaie de récupérer de l'ADN nucléaire, et puis dans le fond, on y arrive, avec encore plus de difficultés qu'avec l'ADN mitochondrial, mais on y arrive. Et je vous donne quelques exemples ici. Une fois qu'il y a eu ces premières analyses de phylogénie sur les Néandertaliens, les gens ont commencé à se dire, bon, est-ce qu'on peut se poser des questions sur le phénotype de ces Néandertaliens en allant voir certains gènes spécifiques qui seraient liés à des phénotypes particuliers. Alors, il y a un certain nombre de gènes qui viennent à l'évidence, à l'esprit. Et par exemple, c'est le gène FOXP2. Alors, pour faire très court, le gène FOXP2 est un gène qui est qui est très conservé hein, sur l'ensemble, pour l'ensemble des mammifères. Mais c'est un gène dont on sait qu'il y a deux mutations spécifiques qui sont, on va dire, corrélées à des problèmes de langage actuellement chez Sapiens. D'accord ? Je dis bien corrélées. Okay. C'est-à-dire qu'on a montré, des équipes anglaises ont montré que il y avait deux mutations spécifiques lorsqu'elles étaient différentes, je vais dire, de la séquence de FOXP2, étaient liées à des problèmes de langage lors des tests de répétition. Alors, la grande question qui est toujours, est-ce que les Néandertaliens parlaient ou est-ce qu'ils avaient la possibilité d'avoir un langage ? C'est ce qui a... Et ayant ce gène FOXP2 dont on connaît la séquence sur le Sapiens actuel, nos collaborateurs à Leipzig ont été très excités d'aller voir ce qui se passait chez un Néandertalien. Alors, pour faire court, quel Néandertalien a été choisi pour aller voir ça ? Eh bien, celui, vous vous rappelez, qu'il y avait beaucoup, on avait trouvé beaucoup d'ADN de Néandertalien chez, par exemple, le spécimen d'El Cidron. D'accord ? Donc, c'était un bon candidat pour aller voir ça. Les fouilles ont été réalisées vraiment le mieux possible quant aux problèmes de stérilité, pas de contamination, etc. Et l'idée, c'était, pour faire simple, c'est que d'aller voir en fait quel était le caractère, puisque je ne vais pas aller là-dessus parce que c'est un petit peu compliqué. Mais si vous voulez, il y a des gènes, on peut analyser, on peut voir chez les gènes quels sont les caractères génétiques, s'ils sont dérivés ou ancestraux. D'accord ? Donc, le but, c'était de savoir si on retrouvait chez les Néandertaliens le caractère, je dirais, dérivé qu'on trouve chez Sapiens actuel pour voir, en fait, je dirais, l'état ancestral ou pas de ce gène. Et voici un résultat qui est assez intéressant. Svante Pebo, donc en collaboration avec notre équipe, on a pu montrer que donc nous on a reproduit les résultats indépendamment aux résultats obtenus à Leipzig, que le gène FOXP2 dont je vous ai parlé sous différentes formes était présent à son caractère dérivé. Donc soyons clairs, comme les sapiens actuels. Mais on avait quand même un problème, c'est que tous les problèmes de contamination. Comment on pouvait se permettre de dire que c'était vraiment venant du Néandertalien et que ce n'était pas une contamination humaine. D'accord ? Il y a toujours quand même cette possibilité. On a été voir un autre gène. On a été voir des gènes sur le chromosome X et sur le chromosome Y. Et on a pu montrer que dans cet échantillon-là, ces différents gènes, on les retrouvait à des caractères ancestraux. D'accord ? Tels qu'on les connaît, puisqu'on connaît maintenant certaines parties du génome, de Néandertalien. D'accord ? Donc ça permettait, si vous voulez, de comparer et de voir qu'il y avait quand même grande chance que ce qu'on avait obtenu ici, qui était de caractère dérivé, était néandertalien, puisque pour les autres gènes, on trouvait le caractère ancestral, mais on trouvait aussi un petit peu de dérivé qui correspond, c'est clair, à de la contamination humaine. D'accord ? Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire catégoriquement, moi je suis claire que ça ne vient pas de la contam, mais si vous voulez, on raisonne comme on raisonne la plupart du temps en paléogénétique, il faut être clair, on raisonne en éliminant certaines situations. Et dans la mesure où on a trouvé quand même un certain nombre de caractères ancestraux pour les autres gènes, il y a de grandes chances que dans ce cas-là, ce soit aussi que ce soit vraiment dérivé. D'accord ? Il faut savoir qu'en paléogénétique, on se trouve toujours devant une situation qui a un faisceau de caractères. On a très rarement la preuve. Mais on travaille en faisceau de possibilités et on essaie d'analyser. C'est notre moyen, en fait, d'analyser ceci. Parce que, comme tu le disais, Michel, on a pas mal d'incertitudes, on a très peu de certitudes, mais bon, voilà. Voilà. Pour faire rapide, c'était un exemple, le gène FOXP2. Alors, il y a d'autres choses qui ont été analysées. Donc, c'est assez intéressant parce que quand j'ai commencé à faire la paléogénétique, alors c'était clair, la question des journalistes, c'était est-ce qu'un jour on pourra faire le génome de Néandertal. Est-ce qu'un jour, on pourra voir, savoir la couleur des yeux de Néandertal? Ça me paraissait faramineux, très loin, impossible, irréalisable. C'est pas beaucoup, 20 ans. Hein. Eh bien, en 20 ans, non seulement, comme vous voyez, on peut connaître la position phylogénétique vraiment du Néandertal avec la paléogénétique. On va en parler après. On va connaître son génome. Okay. Et puis, on peut aborder des genres de problèmes. Vous l'avez vu tout à l'heure par rapport à la connaissance de certains gènes, par exemple FOXP2 liés au langage, et puis d'autres choses. L'équipe de Leipzig a pu clairement montrer que on retrouvait chez le néandertalien en question qu'ils ont analysé, un gène MCER avec des mutations spécifiques liées à la couleur de la peau et à la couleur des cheveux. En gros, on sait que les néandertaliens avaient probablement les cheveux roux et de peau claire. Et vous savez que ce type de travail est maintenant réalisé pour d'autres espèces. Hein. On fait ça, par exemple, pour les chevaux, connaître la couleur de la robe des chevaux lors de la domestication, en fait, etc. C'est quelque chose qui devient assez classique. Donc, on en arrive, je dis demain, on connaîtra les caractéristiques génétiques et génotypiques des néandertaliens, les pathologies, le régime alimentaire, on veut voir tout à l'heure probablement leur environnement, et puis on peut utiliser la paléogénétique pour tas de choses qui sont intéressantes au niveau de la paléoanthropologie, de l'anthropologie, de l'archéologie. C'est par exemple le transfert des matières premières. En sachant, par exemple, quand il y a, je pense à l'ours, hein, l'ours des cavernes, ou l'ours brun avec des pans de loques en ours, en dents d'ours. Comme on connaît très bien la génétique des populations des ours bruns actuels et qu'on va commencer à la connaître pour les ours des cavernes, vous retrouvez une pendeloque à un certain endroit, vous pouvez dire d'où vient, je dirais, le foyer d'origine, d'où vient la dent d'origine. Et donc ça veut dire, est-ce qu'elle a été transportée ou pas par rapport à la population d'ours d'origine. Bon, enfin, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Voilà. Donc je trouve qu'on a fait vraiment un pas énorme. Et dans le fond, tout ce que je viens de vous dire, ben, je vous parle au passé. Parce que je vous ai parlé de paléogénétique. Je vous ai dit, on va chercher tel gène, etc. Ben, soyons clairs, ça va tellement vite qu'on ne fait plus de la paléogénétique. On fait de la paléogénomique maintenant. Et qu'est-ce que c'est? C'est le fait que maintenant, les technologies ont tellement bougé que on ne fait plus de la PCR, c'est-à-dire l'analyse ciblée de petits fragments dont je vous ai parlé. Maintenant, on fait des analyses qui permettent de faire, ben, vous allez le voir bientôt, hein, des génomes entiers. Et cela, très rapidement, ça coûte encore très cher, soyons clairs, mais ça deviendra peu cher dans l'avenir. Donc, la paléogénétique est morte, vive la paléogénomique, hein, c'est clair. Voilà, donc on revoit en fait nos analyses à différentes échelles et puis on regarde les potentialités de ce type d'analyse. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est essentiellement dû à ce qu'on appelle les techniques de séquençage à haut débit. Je ne vais pas revenir sur la technique. Mais pour vous dire rapidement, c'est des techniques de séquençage qui vont très vite. Et en partie, qu'est-ce que ça permet de faire? Au lieu de passer par les étapes dont je vous ai dit, d'extraction, d'amplification de petits fragments et de séquençage, etc. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait de l'ADN, alors par exemple d'un os, mais soyons clairs justement, on va voir. Cet ADN, il est cloné, on réalise une banque d'ADN. Alors, dans cette banque, et puis ensuite, si vous voulez, on obtient donc une banque d'ADN qui a permis de cloner plein de petits fragments d'ADN. Et ensuite, on a une technique de séquençage massif où on aura l'ensemble des séquences présentes dans cette banque. Hein? Alors, soyons clairs, quand je vous dis dans cette banque, on aura de l'ADN de néandertalien, mais on aura l'ADN de toute autre chose autour. On aura l'ADN des contaminations. On aura l'ADN des bactéries, des champignons du sol, de tout ce que vous voulez. Okay, donc, le gros problème après, donc l'acquisition des données, je pense que ce n'est plus un problème. Le problème suivant, c'est l'analyse des données. Donc, il y a un énorme champ qui s'ouvre pour la bioinformatique à l'heure actuelle pour faire le tri de ces données. Mais ça permet d'avoir aussi d'autres éléments que, par exemple, juste l'analyse de l'ADN endogène de l'échantillon. Je vous donne un exemple, je crois, après. Voilà, c'était celui-là, il est un petit peu vieux maintenant, il est 2006, mais il est important parce que c'est la première fois qu'on pouvait faire une analyse génomique d'une espèce éteinte, l'ours des cavernes. Et justement, ils ont fait ce que je vous ai dit, là, cloner des petits échantillons, faire, et puis ensuite analyser toute cette banque d'ADN. Et qu'est-ce qu'ils ont pu montrer ? C'est assez intéressant, à partir de deux échantillons. Mais vous voyez que, par exemple, ici, la plupart des séquences qu'ils ont obtenues en comparant les séquences par rapport à des banques de séquences, par exemple, GenBank qu'on a actuellement et qui permet donc de comparer et de savoir à quelle espèce on attribue telle séquence, eh bien, vous voyez que la plupart étaient des choses inconnues, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séquencés actuellement dans les banques, donc on ne sait pas ce que c'est. Il y a une grosse partie qui est environnementale, champignons, etc., et des prokaryotes en masse, des eucaryotes, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, vous voyez ici, en gros, 5% de carnivores, donc 5% d'ours des cavernes endogènes qui étaient dans l'os. Okay ? Alors ça, c'était 2006. C'était 2005. Dans la même année, 13 mégabases d'ADN de mammouth. 2007, nature, 1 million de paires de bases de Néandertal. Et puis, en effet, et ça serait normalement prévu pour la fin de cette année, le génome complet de Néandertal. Voilà. C'est quand même assez impressionnant. J'ai pas fini. J'aurais pas dû dire cette phrase, j'en ai juste deux, trois, je vous embête pas plus loin. C'était juste pour vous dire que c'était l'exemple, et puis c'était donc le fameux Nature là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'aimerais quand même expliquer quelque chose, parce qu'il y a vous allez voir, l'analyse du génome de Néandertal, ça pose plusieurs types de questions et plusieurs types de problèmes. J'aimerais y répondre parce qu'on a tout le temps la question. D'abord, à quoi ça sert ? Parce que vous allez voir, ça coûte très cher. Okay ? Il faut savoir que le génome de Néandertal, c'est la moitié du budget du Max Planck Institute en Allemagne. Okay ? C'est énorme. Donc, il y a des gens qui disent que ça ne vaut pas la peine parce qu'il y aurait d'autres choses à faire plus intéressantes, et il y en a qui disent qu'il faut y aller. Bon, alors, il y a des discussions possibles. Ce que j'aimerais dire, c'est... Et l'argument qui a été mis en avant par l'équipe, c'est un argument très intelligent, c'est pourquoi est-ce qu'on veut séquencer Néandertal ? Alors, je pense qu'ici, dans la salle, il y a pas mal de gens qui sont passionnés de paléoanthropologie, donc ça nous semble évident. Okay ? Il y a un autre argument, qui est un argument lié à tout ce qui est la pharmacogénomique, à la pharmacologie. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, actuellement, on connaît le génome humain, d'accord ? On connaît le génome de chimpanzés. Et le fait d'avoir, en fait, le génome de Néandertalien, ça permet de savoir qu'est-ce qui est spécifiquement humain, qu'est-ce qui est spécifiquement sapiens. OK ? Puisqu'on va pouvoir comparer le génome, savoir en fait ce qu'ils ont ensemble, ce qu'ils ont en commun, on va dire ce qui est homo en commun par rapport aux chimpanzés, mais on va pouvoir déduire ce qui est typiquement sapiens de ce qui est homo en général, dont Néandertal. Okay ? Et ça, c'est un argument majeur pour tout ce qui est pharmacogénomique, hein, c'est-à-dire faire des choses qui sont spécifiquement adaptées à notre espèce. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils l'ont vendu, c'est un argument très intelligent. Maintenant, il y a à faire ce génome, je vous ai dit, ça coûte cher, et puis il y a quand même quelques problèmes techniques. Pourquoi ? Je reprends cette diapo qui est un tout petit détail de ce que je vous ai mis en gros tout à l'heure, c'est que je vous ai dit qu'on avait des mutations artefactuelles dans notre génome dues à, je dirais, l'agression du temps et de l'environnement. Que le problème majeur qu'on avait actuellement, c'est de faire la différence entre des mutations biologiques vraies et des mutations artefactuelles. Par nos techniques de PCR et de clonage que je vous ai montrées là tout à l'heure, on peut déduire les mutations vraies. Maintenant, par cette approche-là, on a un génome complet, et puis après, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre ce qui est humain et ce qui est néandertalien ? D'accord ? Parce que ce qui ne bouge pas, est-ce qu'on dit que c'est néandertalien ? Est-ce que c'est parce que Néandertal était identique à l'homme dans cette région-là ? Ou alors, est-ce que c'est une contamination humaine ? Enfin, vous voyez, il y a des tas de problèmes, mais ça pose un gros problème. Et d'ailleurs, ça a été pour le papier, les premières paires de bases qui sont sorties, enfin, les premiers, plus que quelques paires de bases qui sont sorties, ça a été la critique générale. Hein ? Donc, depuis, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Et comment ça a été mis en avant, dans le fond ? On sait qu'il y en a, ça c'est théoriquement, mais on sait qu'il y en a, pourquoi ? Parce que si on regarde, en fait, les pourcentages de base que nous avons dans le génome, qu'on compare aux néandertaliens, aux chimpanzés, par exemple, eh bien, on sait que pour, si vous voulez, les pourcentages des différentes bases dans un génome sont identiques entre l'homme et le chimpanzé. Donc, a priori, forcément, le pourcentage de base, des différentes bases est identique pour le néandertalien. Okay. Or, qu'est-ce qui se passe quand on regarde, que ce soit sur les petites séquences qui avaient été regardées, par exemple, dans Vindija, ou plus tard dans les premières parties du génome de néandertaliens qui ont été acquises, eh bien, vous voyez que le pourcentage de T versé est beaucoup plus grand dans le génome actuel qu'on a de néandertaliens. Donc, c'est bien la preuve qu'on a des séquences artefactuelles. D'accord ? Et soyons clairs, c'est nous un argument qu'on utilise en PCR, parce que ça nous permet aussi de prouver l'authenticité des séquences anciennes. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on faisait un petit travail d'authenticité. Quand on voit qu'on a ça, on se dit, ben, c'est super, c'est probablement de l'ADN ancien, parce que ce serait une contamination, on aurait tout identique. Donc, je vais vous dire que les arguments vont toujours dans les deux sens. Mais là, pour le coup, on sait qu'il y a trop de T versé. Donc, il y a des mutations artefactuelles. Voilà, bon, c'est la même chose, mais déclinée un petit peu autrement. Donc, le tout est de faire la différence entre ces mutations biologiques et ces mutations porte-mortelles. Voilà, mais c'est en cours, et moi, je crois que de la bioinformatique, on arrivera quand même à tirer des séquences vraies. Et de toute façon, comme dans toutes les disciplines, on est passé en paléogénétique par là, mais dans les autres disciplines, c'est pareil, il y a un temps de mise en place des technologies, des méthodologies. On est là-dedans, on va y arriver. Alors, quelques mots sur le séquençage au débit pour terminer. Ça se fait grâce à des machines, des technologies mises en place par différentes sociétés. J'aimerais dire qu'à l'heure actuelle, on peut faire environ 100 millions de paires de bases en 7 heures avec ce type d'approche. Donc, un génome entier qui est séquencé pour très peu maintenant, c'est-à-dire 3 milliards de paires de bases, que c'est quelque chose qui est utilisé, vous le savez, pour l'état de génome d'espèces actuelles, mais c'est particulièrement bien adapté à l'ADN ancien. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, l'ADN ancien a été fragmenté en petits morceaux et que ces technologies-là sont spécifiquement adaptées pour l'analyse de DNA en petits morceaux. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant pour tout ce qui est l'ADN ancien. Et je voulais terminer pour dire une chose que j'ai abordée tout à l'heure, en fait, c'est que non seulement on peut faire des analyses, par exemple, à partir des os eux-mêmes, mais aussi des analyses pour permettre de connaître l'environnement du passé, par exemple. Et je vous donnerai comme exemple cette analyse faite par un collègue il y a 2 ans, qui est qu'il a récupéré des carottes de glace allant de 450 à 800 000 ans au Groenland. Donc, revenons à ce que j'ai dit au début, un milieu particulier où l'ADN est probablement très bien conservé, qu'il a pu montrer par ceux qui connaissent, je dirais, l'analyse de certains gènes spécifiques qui permettent de remonter, on va dire ça comme ça, ça s'appelle du DNA barcoding, mais qui permettent de remonter à l'espèce. Et il a pu montrer, faire comme ça une liste de toutes les espèces, ou les genres, ou les taxons, ça dépend, présentes au Groenland il y a 800 000 ans, et puis a montré qu'il y a 800 000 ans, il avait pu connaître qu'il y avait une forêt boréale au Groenland. Voilà. Donc, ça ouvre des tas d'autres possibilités. Et voilà, j'aimerais donc terminer pour vous dire que tout ça, ça demande énormément de travail, ça demande aussi des locaux particuliers, des compétences particulières, et que pour moi, ça ne peut pas être réalisé dans tout laboratoire de biologie moléculaire, c'est-à-dire que je dirais qu'on est des archéologues de l'ADN, on prend en compte un certain nombre de caractéristiques taphonomiques de l'ADN pour l'analyser. Ce n'est pas seulement quelque chose qui peut se faire sur un coin de paillasse dans un laboratoire de biologie moléculaire. Donc, ça demande des locaux et des compétences spécifiques. Et donc, on a monté à Lyon une plateforme nationale de paléogénétique qui permet d'avoir les locaux pour le faire. Et donc, c'est une plateforme qui a été montée grâce au CNRS à l'ENS de Lyon et pour des applications dans des domaines variés. Et ce qu'on fait, c'est non seulement, bien sûr, on a des projets en interne, mais c'est une plateforme qui est ouverte à la communauté, c'est-à-dire que il y a des gens, par exemple, des archéologues qui n'ont pas la possibilité de faire ça dans leurs locaux. Donc, on réalise des projets en collaboration avec eux, mais il y a aussi des gens qui travaillent, par exemple, dans un domaine particulier en connaissant la génétique des populations actuelles d'une espèce et qui ont envie de savoir quelles étaient, par exemple, les espèces, les sous-espèces présentes à tel endroit, à tel moment, et qui viennent réaliser ces analyses sur notre plateforme. Voilà. Et puis, on ne fait jamais rien tout seul en science. Donc, j'aimerais bien beaucoup remercier toute mon équipe, et notamment pour le travail que je vous ai présenté sur les Néandertaliens aujourd'hui, donc Ludovic Orlando, qui est ici, et qui a fait énormément de choses sur ce sujet. Et puis, voilà, je vous remercie tous.